Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale Châteauneuf-du-Pape sur une inspiration de Rémi...
Toruella.
Non, pas Rémi Toruella. Rémi Bousquet, le dessinateur montalbanais. Salut Rémi.
Salut.
Merci d'être là. Bon, ça y est, c'est fini.
Mais c'est pas possible. J'aime bien le bruit que ça fait.
Mais on s'en fout. Allez.
On a compris.
On a pas vu toutes les bouteilles qui allaient boucher, mais il y en a 23 ou 24. Alors, il faut y aller. Et tu crois qu'on va tout boire?
Est-ce qu'on peut...
Le Pascal Olivier, c'est l'inverse d'un bon vin en fait. En vieillissant, ça devient pas tellement meilleur.
Ouais. Breton. Pourtant, je suis pas breton. Ben moi, je me sers le premier puisque c'est ça.
Est-ce qu'on peut démarrer cette émission convenablement?
Oui.
Je peux en placer une. Merci. Donc, je disais, Rémi a eu la bonne idée de nous amener trois bouteilles de Châteauneuf-du-Pape, un blanc, deux rouges, qu'il va nous présenter dans quelques instants. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, il va faire une exposition au printemps du Châteauneuf-du-Pape. Le printemps du Châteauneuf-du-Pape, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Mais voilà, comme il aime bien préparer les choses, il a demandé, pour savoir où il met les pieds, à ce qu'on lui envoie quelques échantillons. Et comme il est partageur, Rémi Bousquet, il nous a dit... j'aimerais bien venir les partager dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. Et nous, qu'est-ce que vous croyez qu'on ait dit?
On a dit oui.
On a dit non.
Nous, le vin, on en a un peu marre. Ça va, Rémi?
Ça va, impeccable.
Alors, pour partager ces trois bonnes bouteilles, Pascal Olivier, salut.
Salut à tous.
Georges Bonfils, salut.
Bonsoir.
Et Gaël Stenbach.
Salut.
Au programme, Gaël.
On va parler des Ignorants. Donc, une BD. Il y aura plein de petits clins d'œil au sujet de cette BD. Donc, il y a une BD d'Étienne Davodeau.
Georges,
on va parler d'Axel Reel, qui est un batteur danois, qui est un très bon batteur. Il a 70 ans, il a fait partie de beaucoup d'orchestres de jazz et même d'un orchestre de rock, mais de très bonne musique.
Pascal,
moi je vais vous resservir la recette du poulet. Comment fait-on cuire un vrai poulet fermier?
Puis
l'histoire, l'historique du Châteauneuf-du-Pape avec des bons conseils, des tuyaux, etc. etc.
Pour ma part, je vous donnerai le programme du festival de voix de Moissac qui se déroulera du 28 juin au 1er juillet, puisque on vient, il y a deux jours là, d'en avoir le programme complet. Nous passerons un coup de fil à Michel Blanc, pas le comédien, mais le directeur de la Fédération des Châteauneuf-du-Pape, pour en savoir un petit peu plus, la fois sur le Châteauneuf-du-Pape et puis aussi...
Il va nous parler de rouge.
Sur le printemps du Châteauneuf-du-Pape. Voilà, on trinque avec quoi pour commencer?
Eh bien, les Galimardes du domaine Giraud, c'est un Châteauneuf blanc. C'est 3% de la production, c'est vraiment très confidentiel, mais je trouve que c'est, avec le Condrieu, un des meilleurs vins blancs du monde.
Ah bah voilà, santé, bonheur, on démarre cette émission là-dessus. Attention, monsieur, dame, il est québécois, il s'appelle Patrice Michaud. Ah oui, c'est bon ça.
Au départ, rien de louche, on n'a que ce qu'on touche. On se lève en marchant, la chair entre les dents. Et c'était déjà toute une aventure. C'était le grand vent qui prenait dans la voilure. L'horizon sans clôture était de bon augure. C'était la belle époque. C'était avant que ça foque. Et puis on veut toujours plus grand. Le jeu des conquérants. On s'installe, on prospère. On prend des locataires. On brûle ses jours à faire beaucoup d'argent. Le soir on disparaît dans les craques du divan. Tout ça pour finir en dessous d'une dalle en ciment. Malgré toutes nos ménages, ça reste chien pour les singes. importe l'adversaire. Mais on n'est pas fous non plus, les plus pauvres au début. Et la vieille histoire de se répéter. Je l'ai tué, mais c'est lui qui avait commencé. Et si Darwin s'était enfin trompé, même si on porte du linge, ça reste chien pour les singes. Ça reste chien pour les singes. C'est chien pour les.
J'ai un faible hein, pour les Québécois. Il s'appelle Patrice Michaud, celui-ci. Il vient de sortir son tout premier album qui s'appelle Le Triangle des Bermudes. Patrice Michaud sera notre invité dans PCV la semaine prochaine. Il viendra évidemment sur le festival Les Petits Bouchons à Gaillac. Je vous conseille d'aller le rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on déguste ? Et spécial Châteauneuf-du-Pape grâce à Rémi. Alors Rémi, la marque de fabrique de Rémi, c'est ça bouchonne à Paris, ça débouchonne ici.
Chez nous.
À qui ? Hein, c'est ça. On t'a déjà reçu à plusieurs reprises, mais il est bon pour les auditeurs. Tu sais qu'on a toujours de plus en plus d'auditeurs, donc... Il est bon de resituer un petit peu ton parcours.
Resituons.
Donc toi, t'es dans le vin, t'es né dans le vin. Hein,
oui.
C'est
donc,
ça.
Bah écoute, moi je suis un enfant des vignes, donc mon arrière-grand-père était viticulteur, mon grand-père était viticulteur. Mon père, lui, travaille à la chambre d'agriculture, il analyse le vin, donc pour les viticulteurs du coin. Donc les vignes, le vin, ça, on va dire, ça a bercé un peu ma jeunesse. Et ça a inspiré après ma passion qui est l'illustration depuis tout petit. Et donc il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer une série de tableaux autour du terroir à me servir un peu du vin pour me moquer du regard qu'on pouvait avoir effectivement sur le Tarn-et-Garonne ou sur les agriculteurs ou les paysans de manière générale. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ce serait pas nous qui nous moquerions des Parisiens, par exemple. Et donc j'ai joué un peu à contre-courant, beaucoup sur les mots, en utilisant des images qui nous touchent parce qu'on les connaît. C'est notre quotidien dans le Tarn-et-Garonne, c'est la campagne, la ruralité. Et j'ai voulu démontrer un peu à tout le monde que on n'était pas tous des ringards et on pouvait aussi avoir de l'humour et être en place quoi et se moquer nous aussi
ça donne beaucoup de citations hein, aussi qui se déclinent sur des t-shirts, des cartes postales. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir par exemple
hein. Alors celui-là est né en fin d'année 2011, ça a été un super succès. Donc ce t-shirt en fait au départ je l'avais tiré en 50 exemplaires. Alors pour l'anecdote, c'est vrai que les t-shirts, pour rester dans le cadre du sud-ouest, en fait je les vends dans des boîtes de conserve qui sont serties. Alors qu'ils sont serties pas n'importe où, elles sont serties donc à la quincaillerie Saint-Louis, à Montauban, donc notre plus vieille quincaillerie montalbanaise. Donc c'est lui qui me fournit les boîtes et c'est lui qui me fournit et qui me sertit donc les
t-shirts. Et les boîtes, c'est des 2-1, c'est-à-dire c'est le double, c'est le 4/4
oui.
Un peu plus haut.
Ah c'est pour 4 personnes, ouais.
Voilà, c'est pour 4 personnes, oui.
C'est une bonne boîte de cassoulet.
Oui,
quoi.
Bonne boîte
tu
de
prends
une
photo, ce sera sur le site, qu'est-ce-qu'on-déguste.com.
Et c'est vrai que donc, et ce t-shirt a été présenté sur ma page Facebook en fin d'année. Et il y a eu donc un élan incroyable donc, de par tout le milieu, un peu des wine bloggers, des viticulteurs, des restaurateurs, enfin tous les gens qui.
Et du monde entier.
Et du monde entier, oui. Parce, fin du monde entier, oui.
Ah oui.
Il
y a quelques Américains qui sont en photo.
Ah, il y a un Cali, ouais, effectivement. Y a un Californien.
Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu demandes aux gens qui ont le t-shirt de se prendre en photo et de t'envoyer la photo. Hein,
c'est une très bonne idée.
Oui, alors c'est vrai que moi, j'aime bien voir aussi les gens qui achètent mes produits et puis qui j'aime bien qu'ils se mettent en scène aussi au travers de ces produits-là. Et il y a eu des photos plutôt intéressantes. Et oui, effectivement, bon. Il y a eu du On en a eu au Canada, oui, en Californie. Beaucoup de Belges aussi ont été attirés par,
voilà, ça
par,
fonctionne
par
bien.
Le message.
Il y a un site internet, hein, Rémi. Comment ça s'appelle, Rémi, Rémi?
Alors,
Rémi,
le site Rémi. Internet, donc je vais vous le prononcer, vous n'aurez pas le temps de le noter, mais c'est donc www.sabouchonne à Paris et ça débouchonne chez nous.
D'accord, bon, on tape ça dans Google.
Il y a
ça...
les liens sur notre site, on le remettra et puis il a fait aussi
trouver.
Un lien retour de son site vers qu'est-ce qu'on déguste. Donc.
La page Facebook, autrement Rémi Bousquet, c'est le plus simple.
Et donc, tu vas faire pour le printemps du Châteauneuf du Pape une expo là-bas, hein, c'est ça?
Exactement, donc.
Ça fait plusieurs années
qu'il va. On va en reparler. Mais d'abord, situons un petit peu, s'il vous plaît, Pascal Olivier, l'action. L'action se situe dans un vignoble français, le Châteauneuf du Pape. Alors pourquoi le Pape?
Et pourquoi le Pape? D'abord on va dire où c'est.
Grosso modo,
c'est entre Orange et Avignon, et Châteauneuf du Pape, c'est coincé entre une boucle du Rhône et l'autoroute A7.
Et c'est une montagne.
Et c'est une montagne, une grosse collinasse. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Alors pourquoi du Pape? Pourquoi du Pape? La papauté d'Avignon, elle date des années 1280, donc c'est quand même pas récent. Pourquoi y a-t-il eu des papes français qui sont venus s'installer à Avignon? C'est parce qu'il y avait la guerre civile en Italie, à Rome. Et celui qui a lancé vraiment le vignoble, on suppose qu'il y avait quand même, de par l'occupation romaine, déjà des vignes. Tout le long du Rhône, les Romains avaient planté des vignes, jusqu'à Cotroti, Condrieu, etc. etc. Et c'est donc un pape français, Jean XXII, qui s'appelait Jacques d'Huez, et il était né à Cahors. Et donc... il a été évêque de Fréjus, après il a été évêque d'Avignon, et il s'est fait nommer pape, donc, parce qu'il y avait le merdier à Rome, et donc, vers les années 1300, à peu près, il arrive à Avignon, il implante, donc, sa papauté, sa tiare blanche, sa mitre blanche, à Avignon, et comme il était de Cahors, eh ben, il fait venir des copains de Cahors en disant, hé, les gars, amenez-vous, vignerons, banquiers, machin, j'ai besoin de vous, il y a du boulot à faire. Et donc, les vignerons de Cahors sont arrivés à Châteauneuf, et le vignoble a commencé à prendre son expansion et sa renommée jusque sous Louis XVI. Ça a pris, le vin de Châteauneuf du Pape était servi à la cour de France, Louis XVI, sous Louis XVI.
D'accord, donc une très très vieille renommée. D'innombrables cépages, hein.
Alors,
je crois.
Normalement, bon, c'est une AOC, donc une appellation d'origine contrôlée. C'est une AOC, ça a été la première AOC française. Elle est née en 1923. Appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est un baron, un propriétaire, le baron Pierre Leroy de Beaumarier, qui a créé le syndicat de défense, dont tout à l'heure nous aurons le président au téléphone. Pas lui, parce que lui, je crois qu'il est quand même peut-être mort depuis longtemps. Baron Pierre Leroy de Beaumarier, il a été aussi le président de l'INAO, hein, le fondateur et le président de l'INAO, Institut National d'Appellation d'Origine. Donc tout ce qui a structuré le vin, la structure du vin aujourd'hui, telle qu'on la connaît avec les AOC, AOVDQS, AOC, INAO, etc. C'est parti de Châteauneuf-du-Pape.
Ah bon? Ah oui,
d'accord. Ah oui, tout est parti.
J'allais te dire, on lui demande de nous faire l'histoire de Châteauneuf-du-Pape, il te refait l'histoire du vin. Mais en fait,
et te refait l'histoire du monde.
Rémi.
En tout cas, moi, j'aurais bien aimé avoir un prof d'histoire comme Pascal Olivier au collège ou au lycée. Ça m'aurait peut-être aidé dans ma carrière.
À picoler. Bon, grosso modo, Châteauneuf-du-Pape, c'est pas très grand, hein, 3200 hectares, à peu près 320 propriétaires. Donc, il y en a qui ont 100 hectares et puis il y en a d'autres qui ont 2 ou 3 hectares. C'est des parcelles assez pas très grandes, 320 propriétaires. C'est le vin le plus connu de France. Dans le monde,
ah oui,
Châteauneuf-du-Pape.
Avant même les vins de Bordeaux,
ça rivalise beaucoup avec. Ben, il faut par exemple, on peut remettre un truc en.
Georges, les moutons de Rothschild, ce sont pas des appellations, ce sont des noms de châteaux qui sont réputés, tandis que Châteauneuf-du-Pape, c'est une appellation propre, quoi.
Le meilleur vin du monde, il y a 3 ans, avait été désigné donos par Parker, c'était le Clos des Papes de la famille Avril, hein, c'était en 2005, je crois. Mm-hmm. 2005. Meilleur vin du monde par Parker. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Parker, mais en fait, ça a filé une énorme notoriété sur le truc.
Il y a un vin qui est là, que nous a apporté Rémi aujourd'hui, qui est noté 15 sur 20 par le site Goemio.
Ah oui, non, mais voilà. Bon, les châteaux
du Grappinel,
il
voilà.
Y a un petit peu à boire et à manger. Aujourd'hui, quand même, ils ont fait aussi de très gros surtout progrès.
Surtout à boire. Hein,
surtout à boire. Ils ont fait aussi des gros progrès. C'est des petits rendements, hein, ça dépasse jamais 30, 35 hectos à l'hectare. Donc, des choses vraiment, c'est des vins très fougueux, enfin, des vins solides.
Concentrés.
Des vins concentrés. Ils ont eu pendant un moment un peu le tort d'aller sur la surconcentration, donc la surmaturation, la surconcentration, d'avoir des vins qui sont très épais, etc. Et on est revenu aujourd'hui à des expressions du terroir beaucoup plus sympas, avec des vins quand même très fruités, moins lourds. Bon, petit rendement, beaucoup de vendanges manuelles, quelques domaines en bio et en biodynamie.
Et autrefois, bon, les Côtes-du-Rhône, on les dégustait plutôt très vieux. Presque oxydé, madérisé. Quoi.
Alors qu'aujourd'hui, bon, un château neuf, il faut quand même minimum 5 ans de vieillissement pour commencer à voir le bout du bout. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On a des châteaux neufs qui peuvent se garder 20, 30, 40 ans. Hein.
Je voudrais une explication, Pascal Olivier, sur cette bouteille et surtout ce qu'il y a sur cette bouteille.
Les bouteilles châteaux neufs sont unique à Châteauneuf, et pratiquement toutes les bouteilles sont gravées, incrustées, hein, il y a un décor à chaud, donc
comme un blason.
Il y a un blason avec la tiare papale.
C'est pas un décor, c'est moulé avec le,
c'est moulé dans la bouteille. La tiare papale, les clés du pape, contrôlées, donc il y a marqué Châteauneuf du pape, contrôlées, donc c'est vraiment, c'est les seuls à avoir des bouteilles comme ça.
C'est les seuls, depuis
très longtemps. Maintenant, beaucoup d'appellations ont fait leurs propres bouteilles, les ont copiées, mais les Châteauneuf du pape sont systématiquement dans ces bouteilles-là.
Alors, pourquoi le Châteauneuf, c'est vraiment un vin extraordinaire, exceptionnel? C'est le terroir, donc un terroir calcaire, c'est une montagne de calcaire.
C'est du caillou.
Avec des galets roulés, donc du calcaire en profondeur, et une épaisseur de 8 à 15 mètres de galets roulés. Donc ces galets, qui sont des grosses pierres, hein, ça peut aller, des pierres de 15 centimètres de diamètre, qui ont été apportées soit par le Rhône, soit par des glaciers qui occupaient la vallée du Rhône il y a quelques millénaires. Et donc ces galets, en fait, servent de régulateurs thermiques. Ils emmagasinent la chaleur, parce que ça cogne dans le coin là-bas. Oui. Donc, ils emmagasinent la chaleur du soleil pendant la journée et ils la restituent pendant la nuit. Donc, on a une maturation du raisin qui est vraiment optimale. Dans la journée, c'est le soleil et la nuit, c'est les pierres qui renvoient le truc. Les vendanges, en règle générale, Châteauneuf du Pape, se déroulent toujours un mois avant les vendanges partout d'ailleurs.
Voilà, je crois qu'on a tout, hein.
Le décor est planté.
Voilà. Il fait chaud, il fait soif. On a des vins d'une typicité terrible.
Vin rouge.
Alors, vin
rosé.
Vin rouge. Non, il n'y a pas de rosé.
Il n'y a pas de rosé.
Le blanc représente 3% de la production. Le reste, c'est du rouge. C'est uniquement du rouge. Il n'y a pas de rosé à Châteauneuf du Pape. Peut-être quelques exceptions, mais bon.
Non.
Il n'y en a pas.
Okay.
Après, le rosé, on le retrouve chez Tavel, on le retrouve à côté. Mais à Châteauneuf-du-Pape, dans l'AOC, il n'y a que du rouge et 3% de blanc uniquement. Une autre particularité.
Prix d'une bouteille moyenne?
C'est cher.
C'est 15 euros.
Oh, 15 euros, c'est l'année
dernière.
Début.
C'est 30 euros ce qu'on a sur la table, là.
Voilà.
En moyenne.
Normalement, on va dire que c'est entre 30 et...
Ce que j'ai regardé sur Internet. 20 euros.
Entre 30 et 50 euros, voire, bon, après, Claude et Pape, ça va dépasser allègrement les 100, 150 euros la bouteille, le vieux télégraphe, des choses comme ça. C'est des bouteilles. Le Châteauneuf, en règle générale, est un vin qui est quand même cher. Ouais. Petit rendement,
Le vieux télégraphe, c'est 50 euros, en
fait. Oui. Voilà. Château Lanerte, Rayas. Rayas, c'est
quoi? Un télégraphe aujourd'hui, même à 50 euros.
Château Rayas, c'est 300, 400, 500 euros la bouteille.
Rémi. Entre 20 et 25 euros, on a quand même de bonnes choses.
On trouve.
Et après, bon, l'idée, c'est aussi d'aller directement aussi à Châteauneuf. Pour revenir donc justement sur l'événement aussi, d'aller directement aussi là-bas et d'aller à Châteauneuf-du-Pape à la rencontre des viticulteurs, puisque là c'est vrai que il y a aussi des affaires intéressantes à faire, sans passer par un caviste et par
chose très importante dans le cahier des charges du Châteauneuf-du-Pape, il est expressément indiqué et obligatoire que le vin soit fait avec 13 cépages.
Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une foultitude de cépages.
13 cépages qui doivent rentrer dans l'élaboration du vin. Donc, si vous voulez que je vous les dise, je peux vous les dire. Grenache, Clairette, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Pitbull, Terre et Noire, etc.
On écoute un peu
de jazz,
on y revient après, on va pas.
Donc, là, le décor.
on va, voilà, ben là, là,
13 de cépages, c'est le grenache hein, et ses apôtres. Hein,
voilà. Il est enterré là.
Est-ce qu'il en reste?
On va écouter un des meilleurs batteurs européens. Il s'appelle Axel Riel. C'est un batteur danois. Et bon, il est né à Copenhague. Il n'est pas jeune, il a 70 ans.
Non, mais on l'écoute, tu nous en parleras après.
Voilà, ouais, toi aussi, ouais. Tu te fais saquer la chronique. Hein.
Moi, je voulais écouter de la musique parce qu'il y a le.
Ah, ouais, ouais,
votre temps de parole est écoulé. Voilà. Allez. Je vous le dis, votre temps de parole est écoulé.
Bon, tu nous en écoute directement le morceau. Syndicat, leur indique, c'est parce que c'est le syndicat qui dirige quand même pour le différencier par rapport à Bordeaux où la porte est ouverte à plein de choses. Il est interdit de faire du bib en Châteauneuf. Tu n'as pas de bib non plus à Châteauneuf. C'est-à-dire qu'il reste, tu vois, dans ce truc vraiment en prestige et bouteille quoi.
T'as passé ton temps de parole.
Allez.
Bon, le morceau que nous écoutons, c'est de composition de Pierre Boussaguet. Ça s'appelle Boost Loop. C'est un funky joué par Kenny Werner au piano et Axel Red à la batterie. Mais comme le temps est un peu juste,
je peux parler.
Bon. Alex Riel est un batteur danois. Bon, il a 70 ans. Il a commencé dans les années 60. Il est joué dans le célèbre club de Copenhague qui s'appelle le Montmartre. Et à l'époque, il était avec le pianiste Soitete Montolio, pianiste catalan, ou Kenny Duru, qui est un pianiste américain, et avec NHOP, un des contrebassistes les plus.
Nils Horsted Petersen.
Voilà, tu l'as dit. Je n'osais pas le prononcer. Mais tout le monde le connaît.
Nils Horsted Petersen. C'est
un contrebassiste suédois, tout le monde le connaît sous ses initiales.
Ça parce que
c'est imprononçable. Mais c'est un gars qui joue plus vite sur une contrebasse qu'on peut jouer sur une guitare. Donc un jour, il faudra que je fasse une émission dessus. Non, malheureusement, il est décédé il y a 3 ou 4 ans.
On fera tourner les tables.
Voilà. Bon, il a joué aussi avec la première partie des musiciens de jazz avec Johnny Griffin, Don Byaz, Ben Wester. Plus tard, il jouera avec Pietro Cerny, Wayne Shorter, Dizzy Gillespie, David Sanborn. Et surtout, il fera une tournée européenne avec Bill Evans et Eddie Gomez à la contrebasse.
Eh ben voilà, on arrive au bout de cette première demi-heure de Qu'est-ce qu'on déguste.
Merci, on l'a pas vu passer.
Georges, ben on l'a pas vu passer parce que tu as été grandiose hein, pour nous présenter le
merci,
château neuf
merci,
du pape.
Merci,
Rémi a été superbe dans sa présentation de lui-même.
Non.
Et le premier blanc de château neuf du pape que l'on
vient plié.
De plier, eh bien, était
avec modération, mais il est plié.
Était exactement comme il fallait.
Ouais. Hmm CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors on est pas mal là, hein. On est en week-end, vous aussi hein, j'imagine, pas encore, pas tout à fait, si à cette heure-ci vous êtes aussi en week-end, allez détendez-vous,
c'est le printemps.
Accompagnez-nous dans cette dégustation de Châteauneuf-du-Pape, c'est le printemps ici, c'est le printemps à Châteauneuf-du-Pape également, le week-end prochain, pas ce week-end, hein, mais il y a le printemps du Châteauneuf-du-Pape qui arrive, et pour cet événement, eh bien Rémi, le dessinateur illustrateur montalbanais, monte une expo, sera présent sur cette sur ce printemps de Châteauneuf du pape, et à cette occasion-là, bah, il nous a apporté trois bonnes bouteilles de trois domaines différents de Châteauneuf du pape. Si vous avez raté le début, vous avez raté la mise en racine du Châteauneuf par Pascal Olivier. Tu as été merveilleux dans la première demi-heure, Pascal.
Merci.
Voilà.
Je m'effondrerai sur la suite.
C'était du grand Pascal.
C'était du grand Pascal.
Oh là là, arrêtez de me passer
même,
la brosse à
relire.
Même
moi, je suis obligé de le reconnaître.
Ah, ouais, même voilà. Toi, Gaël.
Et oui.
Donc, Gaël, ça t'a mis la pression pour ta chronique.
Un petit peu, j'ai un peu la trouille du coup.
Ah, voilà, c'était une fête Pascal.
J'ai monté. Non, c'est au mois de mai.
Ah non, c'est dans 15 jours, Pascal. La semaine prochaine, c'est les Ramons.
Ça va, tu veux... Ah bon,
attention, ne mets pas Pacquard.
Ne mets pas Pacquard.
Je te savais pas que tu l'aimais comme ça.
Voilà, donc Georges, Pascal...
Nous avons la même culture, cher ami.
Gaël sont les... avec moi-même, les quatre chroniqueurs qui accueillons Rémi. Qui nous a amené ces trois bouteilles. Et puis aussi cette petite assiette que j'ai devant là.
Ah, mais et qu'elle vient d'où, cette petite
Alors,
assiette?
Explication.
Eh bien, l'explication, elle est simple. C'est, c'est CFM. Donc, quand Rémi est invité à CFM et qu'il se balade en ville, il croise ses copains. Et quand il croise ses copains, ben, ses copains, ils travaillent dans le vin ou dans des bistrots qui vendent du vin. Et là, ben, comme par hasard, donc, j'ai croisé Lionel. Donc, des Baletti rue Princesse à Montauban, qui
Papa
m'a dit,
Aioli,
Papa Aioli, de son surnom, qui m'a dit, écoute, Rémi, je vais te filer une petite assiette de charcuterie avec donc de la copa, du pâté, enfin il y a un petit peu de tout, du jambon de pays, pour bon. Que vous puissiez quand même manger quelque chose et grignoter quelque chose avec les bouteilles de Châteauneuf, parce que bon, le Châteauneuf, c'est vrai que ça se boit, mais c'est quand même relativement costaud.
Faut une côte de bœuf avec
costaud.
Ça.
Voilà, ouais. Donc, ben, en plus, donc Lionel, ben, ce soir, il accueille aussi un événement, donc une petite
un
animation
petit musical,
pour,
ouais.
Voilà, pour l'apéritif vers 19h30. Et c'était très sympa de sa part, donc c'est un peu ça. Enfin, c'est vrai qu'en centre-ville, à Montauban, quand on se balade devant et qu'on passe devant chez les copains, c'est souvent...
on boit un coup,
en ce qui me concerne et ce qui nous concerne, je pense que ça se passe souvent comme ça. Voilà,
oui,
c'est simple,
convivial. C'est ça. Alors voilà, petit clin d'œil, merci Papa Aioli pour cette petite assiette. Là. D'ailleurs, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est rudement bon. On dirait du jambon, tu sais.
Le jambon persillé.
Hein, c'est du pâté de tête.
Pâté de tête, oui.
Non, non, jamais de la vue. Ça, j'ai pas eu pâté de tête.
Ça ressemble en tout cas.
Mais non, c'est
du jambon persillé.
Ou de la. Quoi ? C'est du jambon, ça.
Ouais,
bah. Allô ? Ouais. De la ferme des Piboules. Salut les copains de la ferme des Piboules aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé là-bas. On y mange bien Aurélien en ce moment ou quoi ?
Très bien, j'étais à midi.
Ah, voilà. Très bien.
Alors,
très
bien. Chronique,
bien joué.
Eh ouais, non mais c'est travail d'équipe.
Bravo.
On démarre en musique évidemment.
Pas Matt.
Avec pas Matt, ouais. Dans la prochaine demi-heure, on va passer un coup de fil à Michel Blanc, qui est le président du syndicat du Châteauneuf-du-Pape. Ah, c'est bon ça, hein. Ça c'est rudement bon. Comment ça s'appelle
c'est dit. Domaine d'analyse, alors c'est un des rares Châteauneuf qui utilise les 13 cépages qui sont dans les cahiers des charges de la OC.
On lui fait tout subir, vernis plaqué, contreplaqué, sinon laqué, si réponse illustrée, même brûlé. Le bois mort n'est pas mort, Il crie sa peine dans nos maisons, ou parfois chante sa forêt lointaine à chaque saison. S'il le chante son bois en souvenir d'un être quitté, c'est doucement alors qu'il fredonne ainsi son passé. Pour rechanter son arbre, un bois concentré vite, ameubler le silence et pratiquer son rite. Le bois mort n'est pas mort, il crie sa peine dans nos maisons, ou parfois chante sa forêt lointaine à chaque saison. Abidam kamaye, toro, samanile ajoro. Ajoro wele lodumo, abiram kamaje, toro, samanile ajofe. Deviennent ta manque si près pas baobabou pommier. On pourrait les trouver dans une scierie ou atelier, formant le cœur des bois et s'unissant pour composer.
Qui entend le bois pleurer, risque à coup sûr de pleurer.
Célèbre, chanter ou compter, on fait feu de tout bois. Les gueules, les langues, les jambes sont le premier choix. Si tu rencontrais au coin du bois le bois d'ébène, colporte lui ses rimes en le couchant pour l'aubaine. Le bois mort n'est pas mort, il crie sa peine dans nos maisons.
Ok, ou parfois chante. Ça c'est pas mat donc. Pas mat, il était en Égaronais, hein. Aujourd'hui il vit dans notre belle région. Et il sera entre le 28 juin et le 1er juillet à Moissac, en Tarn-et-Garonne, pour le Festival de la Voix. Il y a deux jours, je me suis rendu au Hall de Paris, à Moissac, où toute l'équipe du Centre culturel, dirigée par Jean-Marc Fuentès, donnait le contenu de ce Festival de Voix que j'aime beaucoup. Festival de Voix de Moissac, il est très sympa. Alors il y a la venue de Monsieur Michel Jonas quand même, donc je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui feront le détour pour ce grand monsieur. Il y aura Sushila Raman qui sera là. Il y aura, ouais, c'est vachement bien. Chetnouneta, c'est très métissé. Ça part dans tous les sens. Ça va des musiques arabo-andalouses jusqu'aux musiques des pays de l'Est, genre les voix bulgares, tu vois. Et ça métisse vraiment tous les styles. C'est vraiment très bien. Monsieur Paco Ibanez, c'est pas la première fois qu'il vient à Moissac, mais il remplit à chaque fois qu'il vient. Et Paco Ibanez, il va jouer dans le cloître. Donc je vais vous dire, l'année dernière, j'ai eu le plaisir, moi, de voir, le nom de l'artiste m'échappe, dans le cloître, seul avec son piano, et c'était drôlement bien.
C'était
lui, oui, voilà.
Oui, c'était lui, voilà. Ben, très bien.
Et ben, c'était vachement bien. Mais le cadre, tu vois, du cloître, c'est génial. Il y aura Violon Barbare, Groupetto, L'Herbe Folle, il y aura la compagnie Arène Théâtre, il y aura la Mal Coiffée, le trio Kazetsu & Co. Kazetsu & Co, c'est Madame Kazetsu, ce que tout le monde connaît, la soprano.
Et Enko, ce sont ses enfants.
Voilà. Et donc, ça va être aussi un beau festival.
Beau festival, pas un festival pour les bobos. je t'en loupe pas une, moi.
Le bobo festival.
William Scheller.
Oui, merci. Bravo. Merci Guillaume.
Merci Guy.
William Scheller, c'était très très chouette. Donc dans le cloître de Moissac. Pas ce week-end, hein. Le week-end prochain, c'est le printemps de Châteauneuf-du-Pape. Évidemment, ça va être la grand-messe pour tous les vignerons du Châteauneuf-du-Pape. Tu vas t'y retrouver, Rémi.
Comment ça se fait que tu vas t'émigrer là-bas, hein.
Voilà. Comment va se passer ton expo? Raconte-nous ça un peu.
Ben écoute, alors déjà pour la rencontre, donc ça s'est passé il y a 3 ans maintenant, puisqu'on est sur la 3e édition. Donc elle s'est faite grâce à mon blog sur Internet. J'avais rencontré donc le Cellier des Princes, qui est la cave coopérative de Courtaison, qui est juste à côté de Châteauneuf-du-Pape. Et donc là, après cette rencontre donc sur Internet, On s'est rencontrés physiquement à Vigny-Sud, à Montpellier. Donc il y a 2 ans.
Physiquement,
vraiment, ouais, physiquement. Belle rencontre. Et il se trouve que sur le stand donc de, enfin, Courtezon et du Cellier des Princes, donc il y avait Michel Blanc, donc le président de la fédération, qui est venu moi me voir directement sur mon stand, voir mes tableaux, et ça a été une belle rencontre. Donc j'ai été ravi d'apprendre qu'après le cinéma, donc il s'était mis au vin. Et il m'a proposé donc effectivement de participer à cette édition du printemps de Châteauneuf.
Donc tu vas avoir un stand comme si comment ça se passe comme...
Alors, en fait à l'intérieur tu as donc ça se passe dans la salle des fêtes donc du village de Châteauneuf du Papin. Et tu as 2 étages. Donc dans le premier étage tu as des exposants qui viennent donc présenter certains produits, et les viticulteurs sont en dessous. Donc tu as plus de 70 viticulteurs qui sont qui présentent leur vin, et moi je suis donc au premier niveau avec donc mes tableaux, mes t-shirts en boîte, mes cartes, etc. Voilà.
Et tu leur fais un truc spécial Châteauneuf ou...
Alors ouais, chaque année disons que chaque fois que je me déplace moi dans des salons comme ça, je demande aux viticulteurs de récupérer de la lie de vin locale, et je peins donc je travaille sur place avec de la lie de vin identitaire au lieu, à la région, aux viticulteurs qui travaillent donc le vin dans les salons.
D'accord. Et tu ne cherches pas à chaque fois une sorte de slogan genre ça bouchonne à Paris, ça débouchonne chez nous, tu fais pas un truc par exemple pour le Châteauneuf du Pape, je ne sais pas, moi ça pourrait être quoi, ça pourrait
même
être
un projet d'étiquette quelque chose comme
alors,
ça.
Alors le travail sur Châteauneuf du Pape, il a déjà été fait, puisque en fait j'ai déjà moi fait un tableau par rapport à ça. C'est donc le château neuf du Pape et la vieille cabane du curé.
Ah bravo.
Voilà qui a aussi peut-être fait que j'ai rencontré voilà aujourd'hui Michel et tous les organisateurs donc du salon.
Alors Michel, c'est Michel Blanc qui est le président du syndicat. Moi ça me fait toujours peur, tu sais, quand tu es président du syndicat, quand même ça,
ouais,
ça pose son nom. Président. Donc Michel Blanc, président du syndicat Châteauneuf du Pape. Bonjour Michel Blanc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio pour nous parler du Châteauneuf du Pape et puis surtout de ce printemps. Depuis quand vous fêtez le printemps à Châteauneuf du Pape? Depuis qu'il existe? Alors, pas le printemps, mais Châteauneuf.
1321.
pour préciser, je ne suis pas le président, donc n'ayez pas peur, je ne suis que le directeur du syndicat des producteurs.
Ah. D'accord, pardon.
Donc déjà, ça fait baisser la pression.
Ah ben là, ça va beaucoup mieux.
On va avoir un coup pour fêter ça.
Là, vous pouvez tomber les cravates et ne pas, c'est beaucoup plus cool.
Ouais, ça y est, on s'est mis à l'aise, on s'est mis en t-shirt. Ouais.
Bah, parfait, ouais. Mais le printemps, oui, on le fête depuis que Dieu a créé la terre, mais sinon, le printemps de Châteauneuf du Pape, c'est effectivement la 3e édition que nous allons célébrer dans 10 jours maintenant.
Donc, Pascal nous disait tout à l'heure qu'il y avait à peu près 320.
Non, il y a 350 déclarants de récolte sur l'appellation Châteauneuf du Pape, mais en vignerons qui vinifient leur vin, qui le vendent en bouteille, on en compte 220.
D'accord.
Voilà. Les autres vendent soit en vrac ou en négoce, soit sont adhérents à la coopérative de Courtezon qui a été citée par Rémi, qui est le Cellier des Princes.
Et là, tout le monde vient. Tous les vignerons sont là.
Non, il y a un tiers des metteurs en bouteille, non, puisqu'il y en a un peu plus de, il y en a quasiment 75, donc, mais ça fait déjà une belle représentativité de l'appellation.
Est-ce que c'est une appellation aujourd'hui qui est dynamique, le Châteauneuf du Pape, ou est-ce que c'est une appellation qui se repose un peu sur ses lauriers?
Bah non, on roupille, on fait que ça, de toute façon, on est plus
là-bas. Bien sûr.
Michel, le gang of Grenache. Gang of Grenache.
Ouais, nous, c'est In Grenache We Trust et c'est le gang of Grenache. Non, c'est la mise à part, je pense que, non, on se repose pas du tout sur nos lauriers, bien au contraire, pour preuve, avec l'appellation Tavel, qui ne fait que du rosé, qui est de l'autre côté du Rhône, mais qui a un parcours historique commun à ce du Pape, on a sur 3 ans, là, de 2010, 11 et 12, un programme de mission export dans les pays en dehors de l'Union Européenne. Et là, dans les 3 mois qui viennent, par exemple, on va être à la fin avril pour le 20e anniversaire d'Hospice du Rhône en Californie. On va être sur un salon à Séoul, en Corée du Sud. On va être à Vinexpo Asia-Pacifique à Hong Kong. Et on va être à Top Wine Pékin. Tout ça en 2 mois à la fin du printemps.
Alors, et vous n'arriverez pas à fournir tout le monde?
Ah, ben on va jouer la carte du marketing de la demande. On
ce
va
qui est rare, train, ce qui est rare et cher. Peu,
voilà, on va être malthusien, ce qui est rare et cher.
Voilà.
Donc ça veut dire que même nous ici, on n'arrivera plus à boire du Châteauneuf du Pape, quoi.
Mais si, parce que ça reste sûr, mais ça reste un très bon rapport qualité-prix du pape par rapport à plein d'autres appellations que l'on ne va surtout pas citer sur vos ondes, mais qui sont quand même un peu plus à l'ouest de chez vous.
Non, non, mais on en parlait justement là. Lors de notre dernière, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière émission, on a beaucoup parlé des Bordeaux et des grands crus de Bordeaux qu'on n'arrivait plus à boire ici parce que les Chinois se les payaient grassement et donc du coup nous on les boit plus quoi. Voilà.
Ah mais les Chinois non plus les boivent pas, donc vous rassurez.
Alors qui les boit?
Personne,
ils spéculent. Est-ce que c'est vraiment spéculatif, le Châteauneuf-du-Pape?
Non, il y a quelques cuvées spéculatives parce qu'elles sont super bien notées par Kern, Loin Spectator ou d'autres, mais ça représente des petits volumes, des cuvées sur des micro-terroirs, du parcellaire, donc des produits exceptionnels dans...
Claude-des-Papes, Raya, Château, enfin, Domaine Rayas, etc. Mais après,
voilà, comme ça, mais même quand c'est tricoté et même quand c'est spéculatif, voilà, c'est 50, 70, 100€, 150€, pas plus. Donc voilà, ça n'a rien à voir, c'est le prix d'un beau Bourgogne, c'est le prix d'un petit cru glacé du Médoc.
Oui, ou d'un grand Bordeaux. Ouais, par contre, à l'export, le Châteauneuf, il s'exporte où principalement aujourd'hui?
Donc nos marchés traditionnels, effectivement, ce sont les marchés export, puisque l'appellation, on est quasiment vendu aux trois quarts à l'export en moyenne. Mais certains producteurs sont à 90% de leur vente sur les marchés étrangers. Jusqu'à présent, c'était USA, Canada et Grande-Bretagne. Se développent depuis quelques années tous les marchés nord-européens, notamment les Scandinaves, le Danemark, Norvège, Suède. Puis après, on va redescendre sur la Finlande, l'Allemagne qui repart bien. Là, on était la semaine dernière à Provins, à Düsseldorf et... au Salon du Tourisme, ITB à Berlin, il y a une demande pour des beaux Châteauneuf-du-Pape parce que ce sont des produits qui correspondent aujourd'hui à ce que les consommateurs allemands ont envie de déguster.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites là? Est-ce que vous feriez du vin marqueté?
Ah non, au contraire, c'est qu'on a, la chance d'être sur un vin dont en majorité le cépage dominant est le Grenache. Donc, c'est un cépage qui est très très adapté aujourd'hui à la consommation moderne de vin. Donc, c'est un cépage où les tanins sont pollus, où on a une forme de sucrosité, mais sans pour autant avoir du sucre à l'intérieur. On a des vins qui s'apprécient, qui peuvent être bu très jeunes, parce qu'ils sont sur le fruit, parce qu'ils sont suaves, parce qu'ils ont aussi de l'élégance, mais qui ont des potentiels de garde très importants. Donc, plus après, les 13 cépages que l'on peut utiliser et assembler. Non, on a la chance de faire des vins modernes, contemporains, et qui s'adaptent aussi bien à une consommation rapide qu'au vieillissement, aussi bien qu'une consommation de produits de plats typiquement français, comme avant, le gigot, le ragoût, la daube et autres, mais aussi des sushis, des plats de la cuisine de Shanghai ou de la cuisine nord-américaine. Donc voilà, c'est la chance d'avoir ces beaux cépages méditerranéens qui, comme nous... un peu le melting pot de tout le bassin de vie du sud de la France.
Michel Noir. Oh, il fallait que je la fasse.
C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est
très mauvais. Deux par Dieu, s'il te plaît. Deux par Dieu. Ouais.
Non, on est, grâce à vous, on déguste ce soir trois vins. On a bu du domaine de Giraud
Le blanc
du domaine de Giraud,
les Gallimard.
Gallimard.
C'est un quartier au sud de Châteauneuf-du-Pape.
Voilà, on boit aussi un domaine de Nalis, je crois qu'il lui utilise les fameux 13 cépages, ce que nous disait Pascal tout à l'heure, et puis on s'apprête à boire un grand domaine du Grand Tinel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces trois vins-là?
Mais ils ont été sélectionnés justement pour montrer un peu les différents terroirs de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Donc les Gallimard, ça vient du sud de Châteauneuf-du-Pape, à la frontière entre le village de Châteauneuf-du-Pape et la commune de Sorgues, qui est quasiment à l'entrée d'Avignon, puisque l'appellation se situe géographiquement entre Avignon et Orange, le long du Rhône, sur la rive gauche. Les Gallimard, c'est pour montrer que sur un terroir très chaud, très sec, dans le sud de la France, avec une pluviométrie très faible, on peut faire de jolis vins avec beaucoup de fruits, beaucoup de maturité.
Un blanc frais.
Oui, enfin, frais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il il méritait d'être servi à température pour qu'il ait tous ses...
Il est frais en bouche.
Tous ses arômes.
Voilà, il faut le servir, il faut servir entre 12 et 14.
Ouais.
Et boire avec un pélardon, un picodon ou avec du roquefort, par exemple.
Oh ben, du Roquefort de chez nous.
Ah, ah oui, bien sûr, pas de chez nous.
Domaine de Nalys, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le domaine de Nalys?
Donc, le domaine de Nalys est une propriété emblématique de l'appellation Château du Pape qui a été créée par le docteur Dufailly, qui est une personne qui a beaucoup fait progresser l'œnologie et la viticulture sur Château du Pape. Aujourd'hui, ça appartient à Groupama, puisqu'au décès du docteur Dufailly, il n'y avait pas de succession. Donc, c'est Groupama qui s'est porté acquéreur il y a une quarantaine d'années maintenant du domaine. Donc Nalys, effectivement, c'est plutôt sur des terroirs de sable, puisqu'on est en-dessus de Vaudieu, Rayas, et on est sur la pointe qui va vers Courthézon. Donc on n'est plus sur les galets roulés, on est sur les sables, on est sur un petit plateau. On a aussi des galets roulés sur le voie Sénéchal, mais là, ça représente un peu tout. Ça représente les galets, les sables, ça représente les grès rouves. Il y a les 13 cépages, donc on peut dire que c'est le Château du Pape typique, traditionnel,
emblématique.
En même temps, voilà, Groupama, c'est l'assurance d'un bon vin, je Eh, non, pas mal quand même.
Et si vous osez, vous direz, c'est la cerise sur le gâteau aussi.
Bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Blanc, pour partager ce petit moment autour de vos... Nous, on est ravis de déguster, grâce à Rémi, au passage, là, les vins que vous nous avez envoyés. C'est super. Merci, Rémi.
Écoute, moi, merci, Michel. Donc, Michel, à week-end prochain.
À dans une semaine.
Voilà. Et moi, je suis prêt. Donc, je prends beaucoup de plaisir depuis 3 ans à venir. Et
nous, on t'attend aussi. On a pris les ouvre-boîtes et on va faire péter les t-shirts.
Bon, impeccable. Hein.
Merci, moi, c'était Michel. Pardon, vas-y, excuse-moi.
Moi, je prendrai l'ouvre-bouteille, ouais.
Ouais, parfait. On va les échanger.
C'était Michel Blanc, directeur du syndicat du Châteauneuf du Pape. Merci, à la prochaine.
Merci, bon week-end.
Alors, attends, moi, je voudrais du domaine de.
Du Grand Tinel.
Ah, moi aussi, moi.
Il est un peu foncé. Les curseurs sont un peu à fond, un peu surextrait, sur un peu tout.
Attends, est-ce que t'as mangé entre les deux vins?
Ben oui, on a mangé.
Ouais, prends ça là, tiens, regarde. Sœur Aurélien aussi, il a pas besoin. C'est vrai, ça, c'est vrai. Juste, monsieur, dame, ce soir, si vous prenez le train en marche, sachez que on est sur du Châteauneuf du Pape. On est en compagnie, en bonne compagnie, avec Rémi Bousquet, mais alias Rémi, excuse-moi si j'ai toujours du mal à dire Rémi Bousquet, parce que je sais que quand même, ton nom,
c'est Rémi Bousquet.
Voilà, mais c'est aussi le mien, donc c'est ton nom d'artiste, c'est Rémi, mais c'est aussi le mien, donc c'est difficile, tu comprends.
J'ai pas triché, j'ai gardé le même.
Donc Rémi sera la semaine prochaine. Sur le printemps du Châteauneuf du Pape, et c'est à cette occasion qu'il nous a apporté quelques bouteilles. On déguste aussi la fin du plateau, il y a presque plus rien, du Balétise. Et là, je le dis à Yoli, Lionel, qui nous a fait le plaisir de nous faire passer ce plateau qui était exquis, vraiment, de petites charcuteries qu'on va retrouver d'ailleurs à l'apéro.
Il n'avait pas assez.
Tout à l'heure, il en manque.
Ouais. Rémi se l'est pas mal approprié quand même. Hein.
Tu l'as laissé là.
C'est Rémi qui a tout mangé.
Il en manque. Lionel,
c'est vrai.
C'est bien, mais il en manque. Deux minutes, c'est le temps que tu as pour le poulet et la cuisson.
Non, il va vraiment
poulet. Il va nous le faire. Attention, monsieur, dame, il va réellement nous donner.
Revenez, lâchez tout.
Bon, hey,
ça fait peut-être 6 mois.
Ça y est, vous m'avez déjà bouffé 30 secondes.
C'est vrai.
Comment qu'on fait pour faire cuire un bon poulet aujourd'hui? Mais attention, un bon poulet de ferme.
Tu vas renverser ton verre.
Non. Ne me troublez pas. Là, je. Hein, bon.
Il est tout émoustillé.
Vous allez l'avoir, la recette.
Un bon poulet de ferme, un vrai poulet de ferme qu'on achète au marché, un truc qui a vraiment le bréché, là, c'est de l'os, c'est plus du cartilage ni rien. Le meilleur. Hein, c'est pas de l'arroser, c'est pas de le faire cuire à basse température pendant 3 heures et de l'arroser. Non. Vous faites un bouillon. Vous prenez un faitout, vous mettez dedans carottes, navets, oignons, ail, sel, poivre, bien entendu, thym, un peu de laurier, vous mettez des légumes, un peu de poireaux, etc. Vous faites bouillir ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et vous plongez votre poulet. Quand ça boue, vous plongez votre poulet dedans, vous le laissez un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps, vous
comme
avez
les
fait...
Anglais.
Pareil, vous faites bouillir votre poulet.
Hein, vous le mettez... bouillir.
Oui, tu le fais bouillir
un
dans le bouillon.
Bouilli, mais
voilà.
ça va pas.
Pendant ce temps-là,
tu veux perdre du poids. Ça fait 6 mois qu'on attend la cuisson du poulet.
Je peux finir ma chronique.
Non, mais laissons-le finir. À la fin, il met tout à la poubelle et il en prend un qui se retire.
Pendant ce temps-là, vous faites chauffer votre four entre 190, 200. Pas plus de 200, hein. Pas trop chaud. 190, 185, 190. Au bout d'un quart d'heure, suivant la taille de votre poulet. Voilà, 187 si tu veux. Au bout d'un quart d'heure, à peu près de bouillie dans le bouillon, vous sortez votre poulet, vous le mettez dans votre plat qui va au four et vous le balancez dans le four. Et là, vous laissez
four à micro-ondes ou
non, four à bois, bien sûr. Vous laissez dans votre four pendant le temps qu'il faut pour, c'est-à-dire grosso modo 190, un poulet d'un kilo 7, ça va durer allez 1h30. Vous sortirez votre poulet, il va être juteux, la peau va être craquante. Il va pas être sec. Vous avez pas eu besoin de l'arroser. C'est un régal. C'est un délice. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, maintenant, je ne fais plus le poulet que comme ça.
Tu le fais
chez
pas
moi.
Au Thermomix?
Je ne le fais pas au Thermomix, le poulet. Merci, madame Georges.
La semaine prochaine, il vous fait la recette du poulet au whisky.
Oui, il faut pas en avoir le whisky.
Ah, il a tenu ses 2 minutes, hein. Ah oui, non, mais il les a tenus, oui, mais tout ça pour un poulet bouilli. Eh ben, bravo. Messieurs, dames, c'est qu'est-ce qu'on déguste? Bougez pas, on revient tout de suite.
CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man. Qu'est-ce qu'on déguste, suite et fin? You need a sweet man. Anyway. Man, I can squeeze you. Tu pues du fût. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Chez nous, on fait chin-chin, pas bling-bling. Ça bouchonne à Paris, ça débouchonne chez nous. Ce sont des slogans made in Montauban, made in Rémi, Rémi Bousquet qui est notre invité ce soir, et qui nous a apporté du Châteauneuf-du-Pape, émission spéciale Châteauneuf-du-Pape et grâce à lui. Merci Rémi.
Voilà. Merci. Ben merci, je vous ai amené Michel Blanc aussi. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a Michel Blanc.
C'est pas tous les jours. D'ailleurs, CFM, hein. Si tu pouvais nous emmener aussi Joe Estar,
voilà, parce que pour la musique, pour le côté musique.
Non, pour qu'il puisse monter sur scène à la place de Michel Blanc.
Et voilà. Je crois que Joe Estar fait des interférences avec ses dents métalliques, hein, avec les micros, donc c'est très compliqué. Il vaut mieux l'avoir au téléphone.
Vous avez vu, même avec modération, il est dangereux de boire du Châteauneuf-du-Pape parce qu'on dit n'importe quoi en début d'émission. D'accord ? Il nous reste à voir Les Ignorants. C'est une bande dessinée que va nous présenter Gaël dans quelques minutes. Il nous reste à écouter du jazz, forcément, parce que...
Oui, on écoute au moins 2 morceaux de jazz. Ouais, fut un temps d'écouter un par demi-heure, mais là, bon...
Ouais,
mais
ça devient compliqué. Hein.
Il n'y avait pas une recette du poulet aussi? Ah non, on l'a dû, pardon.
Bref, non...
Je peux leur donner.
On a eu la poule au pot.
Vous avez arrêté de parler sur ma chronique. Normalement, il est interdit de parler sur les chroniques des autres.
C'est vrai.
Le poulet White Watcher.
On a eu la recette du poulet White Watcher.
Le poulet...
Pascal Olivier.
Si vous voulez rentrer dans votre maillot de bain, voilà. Ouais.
Ça aurait été plus sympa s'il avait été. Non, il est dégraissé.
Et donc, on peut commencer en musique. Avec du jazz, même si tu veux, Aurélien. Hein, il n'y a pas de problème. Allez, on commence par.
Puisqu'il faut y passer.
Bon, on écoute le batteur danois Alex Vell, qui a enregistré un disque avec Pierre Boussaguet et Kenny Werner. Kenny Werner est un pianiste américain. Pierre Boussaguet est un contrebassiste français.
Pierre Boussaguet est un pianiste.
Oui, mais il joue du piano.
Il est bien le domaine de Grand Tinel.
Il compose au piano. Bon, c'est aussi sudiste puisqu'il est d'Albi, donc on a la chance d'avoir en France un des meilleurs contrebassistes européens. Et là, tous les trois se sont rencontrés à Copenhague un vendredi après-midi.
Et, ouais.
Et puis, une après-midi, ils ont enregistré un disque, un CD, tout simplement en prenant chacun deux ou trois morceaux, deux ou trois compositions personnelles. Et là, on écoute un morceau qui est imprononçable. Ça s'appelle Alan Junier Ali. Si vous arrivez à le prononcer, vas-y, toi.
Alan Junier Ali.
Alan
Junier
Ali. Écoutez quand
même. Voilà.
Alan Junier Ali. Hein, c'est ça.
C'est prononçable par tout le monde, sauf par Georges.
C'est l'inverse avec le jazz. Personne ne peut écouter sauf Georges.
Sauf Georges. Voilà.
Non, le jazz.
Oh, c'était méchant, c'est pas vrai, même moi j'aime ça.
Le grand Tinel, plus il sert, mieux il est.
Une composition de Kenny Werner, pianiste américain, qui s'appelle Alan Junielli, avec Pierre Boussaguet à la contrebasse, Axel Rill à la batterie. C'est un disque signé sous le nom d'Axel Rill, enregistré à Copenhague un vendredi après-midi.
En écoutant, qu'est-ce qu'on déguste?
C'est bien parce que c'est l'heure où Rémi normalement nous donne toute son actualité, mais il est parti. Ah non, il est parti. Alors, l'actualité, bien sûr, c'est la semaine prochaine à Châteauneuf-du-Pape. Oh, resitue-nous, Châteauneuf-du-Pape. Non mais
entre Orange et Avignon, entre Orange et Avignon, grosso modo, coincé entre une boucle du Rhône et la nationale 7, enfin l'autoroute A7.
Qu'est-ce que tu y fais? Donc,
Alain Decaux sort de ce corps.
Après.
Donc, alors, ben, c'est simple. Donc, 31 mars, 1er avril, le printemps de Châteauneuf. Donc, c'est le rassemblement de plus de 70 viticulteurs à Châteauneuf-du-Pape, dans le village, donc dans la salle des fêtes. Donc, moi, j'y vais avec donc mes tableaux, mes t-shirts, mes cartes postales, tous mes produits. Je dessinerai en direct donc sur l'événement.
Est-ce qu'on aura ça sur Facebook ou sur...
Alors, bien évidemment, puisque Facebook aujourd'hui mon mode de communication essentiel, on va dire, parce que je fais beaucoup de choses sur Facebook. Et je tiens à remercier d'ailleurs Facebook voilà, personnellement pour ce qu'il m'apporte.
Mark Zuckerberg.
Donc Mark, si tu nous écoutes, ben merci pour tout.
Facebook. Voilà.
Et donc, alors par contre, c'est vrai que je pars. Donc, j'ai beaucoup de copains dans le coin là-bas, puisque je pars faire donc le printemps de Châteauneuf-du-Pape. À l'issue du printemps de Châteauneuf-du-Pape, je descends en dessous d'Avignon et je vais voir mes copains à Verquières qui tiennent un restaurant bio qui s'appelle le Croque-Chou. Donc là, je vais monter une expo qui va durer à peu près 2 mois ou 3 mois. Donc là, ce sont des copains, pareil, qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Ils sont venus me voir à Montauban et on s'est liés d'amitié. À l'issue de ce moment, on va partir en Ardèche, donc pour un salon d'événements naturels qui s'appelle La Remise. Donc on va rencontrer plus de 57 vignerons, donc issus d'une viticulture biologique, biodynamique, très bio. Et voilà. Et après, donc.
Tu reviens à quatre pattes.
Mais écoute, après ce périple, je reviens sur Montauban. Donc je vais tenter de revenir à Montauban.
Ouais.
Et le 12 avril, donc pour revenir sur effectivement l'assiette de charcuterie, le 12 avril, je vais proposer donc un vernissage d'une exposition au Baletti, rue Princesse, donc chez Lionel, les copains. Et de toute façon. Enfin, c'est vrai que y a des gens qui allient le travail et le plaisir. Je ne cesse de répéter que j'allie moi le plaisir
et le travail.
Le plaisir.
Et le plaisir.
Pas, on a quand même une chronique BD, c'est obligatoire.
Oui, alors,
donc on l'a fait.
Bon. Bah oui, d'abord je voulais dire que j'apprécie le travail de Rémi et qu'il y a certaines une petite chose qui me font beaucoup penser au travail, ce qu'avait pu faire Ben à un moment, et je ne peux que souhaiter le même succès à Rémi sur les petites phrases et sur la déclinaison en produits dérivés. Et je trouve même ça, la façon dont le fait Rémi, plus intelligent que celle qu'avait utilisé
avec
Ben.
Plus d'humour que Ben.
Voilà.
Ben est mon père.
Ah d'accord, pardon, donc pour le côté plus intelligent, pardon à Ben.
Et je dois ajouter que c'est aussi une marque déposée, Rémi, comme Ben.
Oui, c'est vrai. Alors on va revenir.
Juste petite parenthèse dans la parenthèse. Quand Rémi a commencé effectivement à faire tout son travail, j'ai aussi vu, et je ne voyais que Ben au travers de son travail. Et aujourd'hui, je ne vois plus que le travail de Rémi, et ce qui fait qu'il imprime réellement sa marque et son travail, et qu'il arrive à faire oublier finalement ce maître quelque part.
C'est le côté graphisme sur fond noir qui rappelle Ben.
Mais écoute, moi Ben, la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand je suis rentré à l'école.
Benjamin Vautier, il s'appelle.
En maternelle, voilà. Et quand j'ai vu mon instituteur écrire à la craie blanche sur un tableau noir, je me suis dit, c'est Ben.
Voilà.
Et finalement, après, alors j'en profite quand même, puisque j'ai dit que Ben était mon père, c'est totalement faux, donc j'en profite pour quand même saluer mes parents, parce que c'est un peu grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui, et ma chérie, Bouchra, qui me soutient aussi dans cette aventure qui est pas forcément très facile.
Très facile.
Et tous ces gens-là ne sont pas des ignorants.
Non, et justement, eh bien, bravo Rémi, on voit le talent du professionnel de la bande. Donc on va effectivement parler d'une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants, d'Étienne Davodeau. Alors, je voudrais avant tout remercier Jean Kervin, du Mas des Anges, pour avoir réattiré mon attention sur ce livre. Parce que l'auteur étant Étienne Davodeau. Voilà, aussi. Et il n'y aura pas de Joestar. Il n'y aura pas de Joestar ce soir. Et donc, l'auteur est de ce livre étant Davodeau, j'avais pas prêté attention au sujet au départ, puisque pour moi, dès qu'un bouquin de Davodeau sort, je le range dans la case livre à lire et je porte pas forcément attention aux propos. Et là, il se trouve que le livre, après l'avoir lu, donc il y a un rapport avec le cadre de l'émission, puisque on va y venir et vous allez savoir pourquoi. Et il se trouve que du coup, ce livre est sûrement le meilleur, toutes catégories confondues, que j'ai lu récemment. Alors, c'est vrai que j'exagère un peu, parce qu'il est peut-être à égalité avec celui sur le Nutella, en fait. Et donc, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux univers vraiment très différents, celui d'Étienne Davodeau, donc auteur de bande dessinée, qui connaît rien au métier du vin, à part le fait, un peu comme nous ce soir,
il boit.
Il boit, il déguste, il sait que c'est bon. Et le monde de Richard Leroy, donc le fameux vigneron. Et donc cette rencontre va générer toute une autre succession de rencontres et de nombreux parallèles entre la création d'un livre et celle d'un vin, avec tous les moments de peur et de bonheur qui vont avec, comme par exemple le moment où ça vous échappe, c'est-à-dire avec le climat pour le vigneron, le moment où ça échappe à l'écrivain ou au dessinateur de bande dessinée quand ça va chez l'imprimeur. Et au fil de l'album, on va suivre le parcours donc pendant un an de l'apprentissage de ces deux hommes, donc Davodo avec les métiers de la vigne et du vin, parce que pendant un an, il a été chez Richard Leroy, donc il a travaillé avec lui, il a été dans la vigne, se lever à 5h du matin, donc chose qui fait qu'un auteur de bande dessinée fait pas forcément, et le parcours de Richard Leroy était un petit peu similaire avec la bande dessinée. Davodo lui a fait découvrir des bandes dessinées. Donc c'est un récit plein d'humanité et de tolérance qui donne vraiment envie. Alors s'il en était besoin encore, en tout cas pour moi, d'apprécier les bons vins et les bons livres, avec modération évidemment pour les seconds. Alors d'habitude quand je fais mes chroniques, je relève un petit peu plein de bonnes phrases. Et là, il m'aurait fallu trop de papier pour relever parce qu'il y en a une à chaque page. C'est un petit peu magique. Il y a un truc très rigolo que dit par exemple le vigneron. Enfin, Davodo lui dit mais tu pisses dans tes vignes, bravo. Et le roi lui répond oui, c'est pour qu'elles me reconnaissent. Je trouve ça, il y en a plein des comme ça. Et un petit rapport avec un événement dramatique qui s'est passé récemment, donc la mort de Jean Giraud, Moebius. Justement, la rencontre de ces deux univers, Moebius qui était une star pour des générations de bande dessinée, bah Richard Leroy lui, ça lui parle pas. Pareil avec Lewis Trondheim. Il dit voilà, il fume quoi? Il a essayé le chenin. Alors il faut savoir que le chenin, c'est le cépage principal du vin que fait Richard Leroy, qui est donc aussi un vin d'Anjou, donc qui fait essentiellement du blanc. Et donc lui il dit il aime pas, non c'est pas bon, c'est planète, c'est bestiole, c'est élucubration, tout ça c'est fatigant. Voilà, donc c'est la rencontre de ces deux univers. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est sûrement un des meilleurs livres qui soit sorti.
Tu peux me le passer.
Cette année et peut-être les années précédentes, ça s'appelle Les Ignorants, c'est sorti chez Futuropolis d'Étienne Davodo, c'est vraiment magique.
C'est un très beau bouquin, Rémi, oui.
Alors écoute, moi je l'ai lu et effectivement, je ne peux que rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un ouvrage qui m'a beaucoup touché parce que on a vraiment l'impression de vivre au travers et à l'intérieur
au quotidien,
d'un journal intime presque de deux personnes qui n'ont absolument aucune possibilité de se rencontrer et là ils se rencontrent, ils se confrontent au travers de deux univers différents. Il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup d'écoute, hein. Il y a donc effectivement la vigne et l'illustration. Par contre, il y a ce travail au fur et à mesure effectivement de rencontre. Donc je te montre mon univers, je t'explique un peu mon univers. Et il y a cette compréhension, cette écoute, cette tolérance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au monde dans lequel on vit, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que des gens qui nous paraissent vraiment différents peuvent se rassembler autour de certaines valeurs et s'écouter, s'entendre et se comprendre. Donc, et pour revenir à Lewis Trondheim, juste pour l'anecdote, c'est vrai que c'est très rigolo parce qu'effectivement, le viticulteur donc, dit à Étienne Davodo. Ah non, moi j'aime pas du tout le dessin,
le travail, etc.
Et ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'en fait Étienne Davodo invite Lewis Trondheim à réaliser donc
il y a une réponse
sur le livre, c'est-à-dire qu'il y a une page donc qui est dessinée par Lewis Trondheim dans
en réponse
les ignorants en réponse donc à la réaction du
critique de Richard Leroy.
Vous permettez que je vous lise et que je vous décrive très succinctement rapidement, hein. Page 140-141.
C'est-à-dire qu'il y a plus de 140 pages.
Il y a 12 vignettes et on voit deux personnages en train de déguster. Vous confirmez que ce sont les deux personnages dont vous venez de parler?
Oui, oui, il y a Étienne Davodo et Richard Leroy.
Le premier est en train de mettre son nez dans un verre pour le renifler à Depardieu. Vous l'avez déjà vu. Et c'est nous dit-on dans la bulle, un Riesling Rosenlay 1989. Ils le boivent, ils font une rétronasale. La rétronasale, vous vous rappelez, c'est... Ensuite, un Mursault Genevrière, 1989, domaine des Comtes Lafon.
Pas mal, ça.
Puis, dans la vignette suivante, un Pommard Clos des Épenaux, 1989, domaine du Comte Armand. Puis, la vignette suivante, un Château de Troplon-Mondeau, Saint-Émilion, Grand Cru, 1989. Puis la vignette suivante, la table est pleine de bouteilles vides, des verres qui se renversent, etc., etc., nous dit-on dans une bulle. Alors, c'est une belle balade. À part quelques exceptions comme le Meursault et le Pommard, qui furent les précurseurs en biodynamie, tout ça a été fait sans travail du sol. En 1989, ils n'étaient pas nombreux à s'y être mis. Celui-là me parle un peu moins. Ah, celui-là, t'emmerde pas, vide-le dans l'évier. Ah bah non, mais si, vas-y. Ah, quoi? C'est ça qui est formidable avec ceux qui ne connaissent rien. Pour pas mal de connaisseurs, ce que tu viens de faire, c'est un sacrilège. Vrai? Tu parles, je connais des gens prêts à pas mal de sacrifices pour boire ce vin aux enchères. Tu parles de plusieurs centaines d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ignorant, tu t'autorises à ne pas l'aimer et à le jeter dans l'évier. Ne pas savoir, c'est être libre. Paradoxal. Tiens, goûte celui-là. C'est quoi ? Te pose pas de questions. Goûte.
Voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Ça démystifie aussi et démythifie plein de choses. Et il y a un moment, je voulais revenir quand même sur le vin de Richard Leroy, qui est quand même super bien noté au guide Parker, qui est dans le guide des meilleurs vins de France et qui a depuis 2002 à EcoCert, donc le label bio, et qui ne le met pas sur ses étiquettes parce qu'il veut que les gens viennent à son vin parce qu'ils trouvent ça bon et pas parce qu'il est bio.
Étienne Davodo, Les Ignorants, récit d'une initiation croisée, édition Futurapolis. On est pas mal là. Une petite dernière chose sur le château neuf du pape du côté de Pascal.
Oui, moi je donnerai un petit peu mes petits choix personnels. Bon, dans le château neuf du pape, domaine Pierre-André, c'est très très bon, c'est vraiment très sympa, des vieilles vignes, des vignes centenaires, plus que centenaires d'ailleurs, elles ont 140 ans les mémés, elles sont vraiment parfaites. Domaine Pierre-André, si vous trouvez ça, achetez les yeux fermés. Bon, Clos des Papes, bien sûr. On n'en parle pas, c'est hors de prix, mais c'est vraiment très très bien. Domaine Laurent Charvin, c'est un jeune vigneron sur Châteauneuf. Il fait des choses vraiment très sympas. Si vous trouvez, vous goûtez sans problème. Domaine Pierre Husseglio et fils, ça aussi c'est très très bien. Les cuvées de mon aïeul, c'est vraiment très sympa. Les cailloux d'André Brunel. André Brunel, il fait un Côte du Rhône cuvée Sabrine à moins de 7 €, noté 90 par parc. Moi je suis pas très parker, mais pour 7 €, c'est vraiment très très beau.
Vous trouvez aussi c'est bien pour comme perceuse, non?
Ouais, bon,
d'accord.
Domaine de la Janasse, très bon château neuf du pape aussi. Vous trouvez un très bon la Janasse en blanc chez Proust, à la cantine de Proust. Il a un Janasse en blanc, donc c'est pas un château neuf, mais c'est un Côte du Rhône blanc qui est vraiment.
Cantine de Proust, hein, c'est un petit resto qui va bien à midi sur Montauban, les gars.
Après, Château Rayas, Château Beaucastel et tout ça, ça devient très cher, mais on trouve encore des choses à bon prix. Faut goûter.
Bah oui.
Goûtons. Et ça se mange. Bon, un bon gigot.
Georges, tu voulais dire quelque chose, mais oui.
C'est complètement à côté. Bon, c'est pour parler toujours un peu de jazz et de blues. Il y a à côté de Rodez un festival de jazz.
Attends.
On n'y arrive pas. On n'aura pas le temps.
Mais si.
Ce que j'aime chez Daniela.
Bon, n'achetez pas du chocolat.
Celle que l'on veut y mettre des doigts.
C'est
que l'on veut s'y mettre à toi. Elle est toujours d'accord.
Voilà, vous avez reconnu les Elmer Footbeat. Ils sont sur la scène de Rio ce soir.
En première partie, Michel Krom.
Concert.
Ça va briller.
Partie retransmise en direct sur CFM. On ne retransmet que la partie Michel Krom.
On n'a pas eu
les autorisations d'Elmer Footbeat.
Elmer Footbeat.
Oh, c'est dommage.
Voilà. Bon, voilà.
Bon, oui.
Et donc voilà.
Il y a ça ce soir.
Il y a ça ce soir au Rio Grande à Montauban. Donc c'est l'heure de faire notre petit tour de table sur les sorties du week-end.
Bah, moi j'irai à un côté voir Elmer et puis au Balletis aussi. Il y a un truc sympa. On boira des coups. On va se finir de se retrouver.
Il y a une soirée très sympa qui démarre au Balletis.
Il fait beau.
Moi, je vais commencer par les Balletis, effectivement. Et puis, écoutez, Michel Krom, hein, là, forcément, l'occasion faisant le larron.
Georges,
à Montauban, il y a un big band montalbanais dirigé par Yves Luminati qui fait un concert ce soir au Carrera. C'est le big band Planet Swing à 21h. Et aussi à Rodez, il y a un festival de blues qui a 10 ans d'existence. C'est le Lax in Blues. Lax, pourquoi? Parce qu'il y a un petit village qui est à côté de Baraqueville qui s'appelle Lax.
Et pas laxatif du tout.
C'est laxatif?
Lax actif. Bon, quand même, ce soir, il y a Bon, si je le retrouve, je le retrouve pas. Mais par contre, demain soir, il y a Dr. Feelgood et Corinne et Purple Soul.
Ouais, mais où?
Dr. Feelgood.
Et bien toujours à l'Axiom Blues à côté de Baraqueville.
D'accord. Norbert Krief, celui des antisociales, tu perds ton sang-froid, Trust.
Voilà,
c'est
Trust.
Non. Voilà. C'est là-bas, c'est au l'Axiom Blues Festival. Ok. Il y a demain soir un bon concert de. Qui arrache la
Pete crête. Weiler.
Pete ah, oui. Weiler. Ouais, voilà. Enfin,
il y en a un troisième groupe.
Grosse soirée. Ça va déménager ces OVO. Ce soir, forcément, à Montauban, on va faire la tournée. Hein. On va passer. Moi, je vais démarrer chez Lulu parce que voilà, j'aime bien démarrer chez Lulu. Mmh. Je vais enchaîner par chez Magda parce que j'aime bien aussi aller aux vendanges. Et puis, je ferai forcément
un petit
ping-pong au Balletiz. Et puis, je descendrai aussi pour ce qui est de Montauban à Alba Sud
à l'acoustique
et je serai forcément ce soir au Rio pour la retransmission du concert.
Et à Lozère dimanche No Code, ce sera rock.
Rémi.
Ben écoute, moi je pense que effectivement j'étais parti pour aller au Baletti, mais je vais faire la tournée des Grands Ducs, hein. Donc avec un petit peu tout le monde, mais bien sûr, on a commencé la soirée d'une manière tellement conviviale que ce serait dommage qu'on se sépare aussi rapidement. Et après donc j'arrive un petit peu tôt pour l'événement, mais on en a parlé pendant toute l'émission. Donc après je vous invite donc tous à venir déguster du Châteauneuf du Pape le 31 mars et 1er avril à Châteauneuf du Pape dans salle communale donc du village.
Est-ce que tu peux nous l'écrire l'invitation sur une feuille pour que quand on arrive on soit vraiment bien reçu.
Merci messieurs, c'était Qu'est-ce qu'on déguste.
Salut à tous.
À la semaine prochaine.
Bon week-end.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.